pour cette deuxième saison du podcast Regard Critique, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2009, Daniel Deshaies, ingénieur du son et enseignant, aborde pour nous la part sonore du cinéma. Dans son triptyque « Lusbert, temps et adieu », Johan van der Keuken étonne par sa grande liberté avec les sons. Si, contrairement à Tati, c'est dans le son direct qu'il puise ses énergies, van der Keuken trace un chemin dans la stratification enfin rassemblée des sons et des images.
Lusbert, c'est un film qui, quand je cherchais des films à présenter, m'est apparu comme un espèce d'objet extrêmement différent. Différent dans la production de Keuken, en même temps révélateur de sa démarche. C'est un film qui est constitué, qui a été reconstitué, puisqu'il assemble trois formes courtes de trois périodes. Et le premier, qui date de 1962, a été pour lui une sorte de enfin, ça a été un moment très important parce qu'il sa rencontre avec Lusbert a été extrêmement décisif dans tout son travail. Il le dit, il dit par exemple, mes premières années en tant que cinéaste ont été fortement influencées par Lusbert. Sa perception visionnaire me montra le chemin. J'ai réalisé un film pour Lusbert en 1966, sorti en 1967. Donc ça, c'est le deuxième film. La couleur en est le fil conducteur. Et ensuite, le troisième film, Si tu sais où je suis, cherche-moi, il s'appelle comme ça. Ce film dont le titre est tiré d'un poème qu'il nous a laissé a été entièrement tourné dans l'atelier de Lusbert, qui est plein à craquer des œuvres qu'il a exécutées ces dernières années, un espace figé en pleine action, pétrifié, en état d'arrêt, mais également un espace où l'esprit souffle encore. Le film parle d'absence, mais c'est justement le manque qui éveille la présence d'un être. Alors les deux premiers films ont été faits avec Lusbert. Lusbert est un poète avant tout, un poète assez important, influent aux Pays-Bas dans les années 50, qui a rejoint le mouvement Cobra et qui a une démarche, alors qui s'est mis ensuite à la peinture, hein, après la poésie, et qui a une démarche en fait qui va évidemment dans tout ce que Cobra a amené, c'est-à-dire l'internationalité, une approche, un regard sur l'art brut, un regard sur le travail des enfants et les dessins d'enfants. On verra ça dans ce film. Un travail sur les ruptures des formes, un travail entre l'abstrait et le figuratif, etc. On reviendra là-dessus un peu tout à l'heure. Et Keuken, finalement, fabrique un film qui répond à cela, qui s'intègre totalement dans cette démarche, sous cette approche. Keuken a une construction assez métissée et sur laquelle il garde la main. Il a une façon de tenir le son. Et c'est pour ça, en fait, que je vous ai aussi apporté ce document, pour vous montrer que finalement, construire le son au cinéma, c'est aller au-delà des formes préconstruites ou des conventions de la construction. Ce qui est extrêmement puissant dans ce film, c'est le fait qu'il prend la main, que Ken prend la main sur le sonore de son film, comme il le fait avec l'image. Il balaye les tableaux, c'est en fait une succession de trois portraits, mais ces trois portraits où finalement il se moque assez de donner la parole à Lusbert ou à faire faire un portrait classique du cinéaste en racontant sa vie. Il rentre directement dans l'œuvre, mais dans la toile, dans la peinture. Dès le début, il entre dans la peinture. Et au son, il nous amène une matérialité, il nous amène une façon d'entrer dans la plastique sonore qui nous approche de la démarche du peintre. Finalement, sa liberté d'écriture est l'équivalent, enfin le parallèle de la liberté du peintre. C'est une forme forte, c'est une forme même exceptionnelle. Alors, Van der Koeken, on sait, a passé sa vie autour du jazz. Il était un amateur éclairé de cette musique et il a travaillé surtout avec la free musique, la musique de son temps en fait. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à chaque film, finalement, les musiques qu'il place sur ses images sont des musiques contemporaines à l'époque de ses tournages. C'est des musiques dans une contemporanéité extrêmement engagée, c'est-à-dire violente, c'est-à-dire que lorsque la free music arrive, c'est le moment de l'improvisation totale, c'est le moment d'une rupture dans les formes du jazz, que Ken emboîte le pas tout de suite et adopte cette musique pour en nourrir ses images. Et plus qu'en nourrir, pour activer ses images. Il y a là quelque chose qui se constitue dans la matière sonore même, c'est-à-dire qu'il va prendre même la démarche des musiciens de jazz pour trouver sa forme sonore. Il se met à improviser son cinéma. Et vraiment, la démarche de cette époque, enfin du début des années 60, hein, on sait que c'est le moment le plus fort. Je vous rappelle que 58, c'est l'arrivée du disque Free Jazz, hein, d'Ornette Coleman. Donc, c'est là où naît le terme de Free Jazz et le courant. Et au début des années 60, on est dans une musique déjà très engagée et très novatrice, très en rupture. Alors dans le premier film, il va employer une musique de John Coltrane et très vite, au lieu de mettre la musique comme les cinéastes mettent de la musique sur leurs films, il se permet d'avoir la main sur la musique et de ralentir la musique. On démarre avec un thème qu'il ralentit, qu'il donne pas à la bonne vitesse. C'est dire à quel point d'emblée il tient même cet objet qui est d'habitude une sorte de lien, enfin qui accompagne une voix off ou un discours. La parole, finalement, dans ce premier film, ça sera la parole de la poésie, ça sera la poésie de Lusbert, et ça sera une parole en poésie immédiate, c'est-à-dire une parole qui, là encore, est dans une forme improvisée, qui a été écrite en partie, qui a été déposée, mais qui est vivante. C'est de la parole sonore. C'est pas simplement de l'écriture poétique, c'est son existence sonore, dans sa vélocité, etc. On va voir que le premier film, finalement, est construit sur des régimes d'énergie. Et Van der Koeken travaille beaucoup avec ça, avec la question des niveaux d'énergie. On voit dans l'ouvrage qui a été publié par les Cahiers du cinéma sur ses écrits des partitions des régimes énergétiques de ses films. Il y a là dans la construction sonore de ses films une volonté d'en articuler les niveaux d'énergie. Donc on va voir ce premier film qui paraît finalement assez, on pourrait dire classique, puisqu'il y a une voix, une musique, et puis des images fixes, des photos, des images mouvantes. Mais bon, c'est une forme assez classique. Finalement, pas si classique que ça. Et il a tout de suite des façons de... Alors, très vite, de ramener des matérialités qu'on pourrait définir comme chaotiques. Alors, c'est quoi ces matérialités chaotiques ? C'est les bruits de fond. Les bruits de fond des cours où les enfants jouent. Et là, c'est là où on retrouve son lien, effectivement, aussi à Cobra, quoi, cette volonté de ramener les voix enfantines, le jeu, la ludicité des enfants, cette chose qui est insaisissable, comme ça, circulante, et qui révèle des espaces très réverbérés. Et on reviendra là-dessus parce que le dernier film est un film totalement sur le chaos. C'est la bande-son de la troisième partie est essentiellement construite avec du bruit de fond. Et on verra quel bruit de fond et pourquoi, et de quelle manière et de quelle matière il s'agit. Mais dès le premier, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une croissance, une chronologie dans la construction sonore de ce film. On a, dès le premier film, cela, déjà. Et cela face finalement à une musique qui est elle aussi une musique de la liberté, mais aussi une musique des régimes d'énergie. On va passer de cette première musique qui est assez lente et assez comme ça, qui expose assez gravement, et qui est une musique qui s'appelle Spiritual, qui est une musique qui renvoie à la question noire, et chez Koeken on retrouvera toujours la question noire. Dans beaucoup de ses films d'ailleurs, là évidemment surtout dans le deuxième film, il y a comme ça une mise en parallèle de la question noire. Elle se place aussi avec la musique. Si le jazz est là, c'est pour nous rappeler cela aussi. On l'avait dans un film qui est de la même époque que le premier Lusbert, qui est L'enfant aveugle 2. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film qui s'appelle Hermann Slob, et qui est un film absolument exceptionnel où il fait un portrait, là encore, d'un enfant aveugle, et où il emploie le jazz et particulièrement la musique d'Archie Shepp sur un thème qui s'appelle Le Matin des Noirs, et qu'il active, dont il se sert pour construire parallèlement un renvoi à la question noire face à la question de l'exclusion des aveugles. Là, on va retrouver cette question qui est amenée à cet endroit alors d'une autre façon. On verra ça pour le deuxième film. La matière du premier film, sonorement parlant, c'est surtout ça. Il s'en tient finalement à des formes simples, mais qui glissent les unes sur les autres et qui parfois se chevauchent. Et elles peuvent même chevaucher, se tenir ténues derrière et continuer. C'est-à-dire on aura par exemple la musique qui continuera avec les voix des enfants et puis du texte par-dessus. On va avoir comme ça une épaisseur à trois voix qui va se jouer derrière les images. On va regarder tout de suite ce premier extrait qui est assez court pour voir un peu, pour commencer à rentrer dans l'espace sensible de Koeken. Un film qui s'appelle Tant Travail, qu'il avait construit spécialement pour l'exposition à Beaubourg, ici au Centre Pompidou, sur le temps, et qui est construit à partir d'éléments tirés de bon nombre de ses films, et qui renvoie justement à la question des rythmes du travail, du tempo, de la vitesse. Voilà. Ah, ça y est, on l'a. c'est qu'avec cette matière-là, il nous... D'abord, il travaille hors synchronisme. Le seul moment synchrone, c'est le moment de l'eau forte, le moment où l'acide arrive sur la plaque et bouillonne. Là, on est, c'est du son direct. Mais autrement, les matières sonores sont en production, surtout sur les images du dessin, d'intériorité. On est dans quelque chose qui nous emmène dans le tracé, dans le trait, sans le son synchronique de la trace de la plume. Donc voilà, déjà les régimes d'énergie, différents niveaux d'énergie. Dans le film suivant, on gravit un échelon et ça devient beaucoup plus sévère. D'abord, la musique n'est plus la musique de Coltrane, mais une musique que Willem Bruker est le saxophoniste qui a travaillé toute sa vie avec lui, que Willem Bruker joue, et cette musique est inspirée de la musique d'Albert Heller. C'est un groupe avec Anne Benning à la batterie. Alors, en fait, Lusbert a fait un disque avec Anne Benning en duo, dans ces mêmes époques-là, voix et percussion, batterie, et improvisée. Et on a là une musique qui va prendre différentes matérialités pour bruiter finalement le film. Et on va être, et ça c'est très intéressant, dans quelque chose qui se situe tantôt dans ce qu'on pourrait appeler du musical et tantôt dans du bruitage, mais un bruitage assez abstrait, un bruitage dans une épaisseur poétique qui n'est pas de l'anecdote ou de l'activation d'un mouvement particulier, mais plutôt quelque chose qui a à voir avec la sensation. On est dans ce deuxième film aussi dans des formes qui ne sont plus celles-là, c'est-à-dire où là on a finalement une matière qui se succède à une autre par des glissements, des fondus, etc. Mais on est dans la coupure, et dans une coupure assez forte et assez violente, et même ce qu'on appelle le Mickey Mousing, c'est-à-dire on va avoir des inserts d'extraits d'images de peinture prise dans la matière de la peinture et sur lequel des sons assez abstraits sont ancrés et coupés cut à la serpe. Ça rentre et ça instaure un régime de rupture qui va peu à peu nous amener à l'existence d'un monstre. Un monstre dans la peinture qui est là et qui est une espèce de regard sur la monstruosité du monde. C'est la monstruosité du monde personnifiée, avec une espèce de râle, de respiration qui va tenir sur les images tout le temps. Et c'est à travers ce monstre, finalement, que tout le deuxième film va être construit. Et ce monstre est une existence autant visuelle, mais d'une peinture finalement à l'arrêt, que sonore est là activé par les râles. Et là, on est dans quelque chose qui se construit entre Koeken, qui met la main à la pâte. Ce premier film était fait au son par Koeken lui-même. Le deuxième, c'est un échange avec Willem Bruker, et le produit de cet échange est assez surprenant. On a aussi une construction de l'image qui auquel Koeken nous fait participer, c'est-à-dire que la toile s'élabore devant nous. Alors ça renvoie au film de Clouzot sur Picasso, le mystère Picasso. On a là quelque chose qui est construit un peu sous le même regard. Et ce montage et ce démontage de l'image, là aussi, est travaillé par le son. Et puis, on a une construction qui se fait avec des images du réel, des images de la Hollande et évidemment du peuple noir et des personnes handicapées et des matières, enfin des, disons de la chair écorchée, de la chair des têtes de porc, d'animaux, d'un animal égorgé, etc. On a là une espèce de présence de la violence, de la cruauté du monde. Et tout ça à travers la puissance de la couleur. Keuken dit ce film est construit sur la couleur. C'est un film bâti avec la couleur. Donc on va voir comment tout ça s'agence. Et vous allez voir que là, il y a une très grande liberté. Keuken n'hésite pas à ouvrir les potentiomètres et on entend le geste. Hein, chose qu'on cache toujours en mixage, on essaye au maximum de ne pas faire entendre qu'on fait rentrer les sons, quoi. On est toujours extrêmement discret, on y va en douce. Lui, au contraire, il ouvre, il ferme, quoi. C'est, le geste est là. Et le geste est là comme celui qui marque la toile, quoi. On a voilà, une prise en main du sonore du film par le corps. Les corps sont présents et le corps de Keuken lui-même est présent. Dans une façon de prendre de la liberté, de jouer, de se jouer finalement de cette matière. Il met tout ça en jeu, on a du sonore en jeu. Et c'est là où la dimension d'improvisation arrive. On va regarder tout de suite le deuxième extrait, donc la suite de ce film, qui est lui fait en 66 et qui est en couleur. On est un peu déconcentré dans la progression. On voit déjà à quel niveau travaille le deuxième. On a changé de vitesse. Là, il y a un objet curieux qui est devant nous. Ça joue de la même façon avec la peinture, avec les images et avec le son. Et cette liberté, finalement, est assez exceptionnelle. On la retrouvera pas. Même dans l'œuvre de Keuken, rarement il reprendra une telle liberté. Pourtant, on a là quelque chose qui travaille l'image. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a finalement une mise en parallèle de deux travaux, quoi. Qui se renvoient l'un à l'autre, qui se construisent l'un avec l'autre, qui s'élaborent, ça joue, quoi. Et là, le sonore arrive au même niveau que le visuel, même s'il est tout le temps derrière, puisqu'il est toujours, le sonore est toujours le sonore d'une image, quoi qu'on fasse, sauf si on met tout au noir et encore. Mais là, on atteint quelque chose qui engage des formes nouvelles. Il n'y a plus un élément qui dominerait sur l'autre. Les choses se construisent ensemble, se renvoient, se rappellent. Il y a alors avec la musique en plus des sortes, et avec ces sons, des sortes de petites formes, enfin le chien, les grognements, etc., qui sont un élément circulant, un élément actif, qui n'est pas narratif, mais qui active quand même des niveaux d'énergie. Donc voilà, là on est dans le sensible, dans la surface sensible, comme celle de la peinture. Alors on va trouver dans le troisième quelque chose encore plus étonnant, c'est que le troisième film devait être fait comme un accord avec Lusbert ensemble, et Lusbert est mort très rapidement. Et donc Kuken a décidé de tourner quand même. Et c'est face à un atelier vide que le film va être fabriqué. Donc il s'agit de remettre en charge cet espace de l'atelier, cet espace inhabité, cet espace évacué. Et Kuken va pour ça travailler avec un sonore qui est, qu'on pourrait croire comme ça, un sonore des grands espaces, comme on a eu avec les enfants qui jouent dans des espaces réverbérants. C'est un sonore chaotique, un peu non précisé. On comprend que c'est des grands lieux, on comprend que c'est des volumes qui sont mis en jeu. Et peu à peu, finalement, on voit que ça n'est pas tant une gare que un musée. Et c'est le sonore du musée qui est là. C'est le lieu de l'avenir de toute cette peinture de l'atelier qui va partir dans ces espaces habités de circulation. Et donc c'est tout le chaos de l'espace muséal qui va nourrir les images. Alors on a un retour aussi, comme dans celui-là, à l'ambiance de l'atelier, avec cette musique de Billie Holiday, comme ça, cette espèce d'ambiance. Là, on avait les petits oiseaux. Toute cette partie était tournée en Espagne, la fin avec les Noirs est tournée en Angleterre. Ils circulent comme ça partout. Hein. Chez Kuken, on a une façon d'être partout dans le sujet, quoi. Partout, ça circule n'importe où. Et Cobra avait cette idée-là, hein. C'est dans l'idée même de Cobra, d'être dans l'internationalisme. Là, on est, avec le troisième film, dans quelque chose qui est par-delà les lieux, qui est par-delà les pays, qui est par-delà l'espace, qui est dans une espèce de remontée de vase, une espèce de remontée de vase, le lieu de la mort finalement, c'est le chaos, c'est ça, c'est le lieu où tous les sons vont s'éteindre, c'est le bruit de fond, le lointain. Et finalement le lointain, c'est ce qui est le principe d'entropie, hein. Le lieu où les choses disparaissent, mais ne cessent de disparaître. C'est-à-dire, c'est un régime, c'est pas un lieu de disparition stationnaire, c'est pas un lieu qui serait... Non, c'est un lieu qui comprend des éléments distincts. Simplement, on se tient à distance et les éléments ne sont plus lisibles. Le bruit de fond, ce qui nourrit les réverbérations, c'est un lieu très riche. C'est un lieu où les éléments, si on s'en approche, sont vivants et bien là, et bien distincts les uns des autres. C'est aussi le lieu du surgissement. Le bruit de fond, nous on parle, quand on fait du son, de rapport signal sur bruit, hein, c'est bien pour définir ce qu'est le signal sur le sédiment. Hein, et bien là, on a le sédiment et du sédiment sort les sons, sortent les éléments différenciés, sortent finalement ce qui va faire sens. Donc toute cette partie se situe à cet endroit, avec encore la voix de Lusbert pour un dernier texte qu'il a laissé avant de mourir à sa femme et à Kuken. Donc vous allez voir comment c'est construit. On est dans différents niveaux, là encore, d'énergie, des niveaux de densité, de matérialité. On est avec une construction qui est liée à l'image, qui est liée au montage, avec des coupures. La coupure est très active. Et puis on est dans un subjectif qui est pris en main par Kuken lui-même, qui, en filmant, fait les pas de celui qui pourrait être là dans cette pièce et qui irait jusqu'au lit ou jusqu'au bureau. Donc, il nous fait traverser l'espace plusieurs fois. Puis ensuite, À la fin, on se trouvera avec ce même espace, cette fois habité par ses petits-enfants, la famille qui grouille dans cet espace et qui retrouve de la vie, qui est réactivé de manière très forte. Et tout ça, c'est par le sonore finalement que ça tient. C'est à travers le sonore que ces images sont portées. Alors, plus que ça, Koeken essaye de reprendre main sur la peinture et dans ce plan magnifique où il filme sa main frottant, touchant à la fois la palette d'abord, puis les tableaux un à un, glissant sur l'image pour comme si il fallait augmenter le contact, reprendre contact, reprendre la main, voilà, après la mort, après la disparition. On va regarder tout de suite ce dernier extrait en espérant qu'il ne s'arrête pas, parce que c'est des flux, hein, en même temps, il faut les voir d'un coup, d'un souffle. Alors il a recoupé le premier film pour le mettre dans l'ensemble, parce qu'il pensait qu'il y avait quelques longueurs. Mais voilà, l'ensemble se constitue comme ça, de ces trois éléments. Voilà, ce qui est beau, enfin, par rapport à la séance précédente, hein, là on est complètement à l'opposé, on n'est plus dans l'évacuation. Hein, chez Tati, on était en ce qui concerne la nouvelle ville, dans un lieu mis au silence, avec aucun sédiment, avec rien, une espèce de... même pas un bruit de fond, même pas une petite porteuse, un petit fond d'air, rien. Là, au contraire, on est dans la matière permanente. Et alors, ça va, c'est très encourageant, parce que la dernière fois, je vous disais, ben, finalement, le continuum sonore que nous donne le micro est en excès tout le temps production d'événements qui ne nous intéressent pas. Hein. C'est ça qu'on s'était dit, c'est que ce que prend le micro ne représente pas notre écoute, et notre écoute, c'est sans arrêt scanner l'espace qui nous entoure, et prélever des éléments et ne pas être dans cette continuité et dans une considération absolue de tout ce qui nous arrive. Hein. Le micro nous donne trop d'éléments. Là, on a ce sonore microphonique. On a ce continuum, il est là et il est là, mais il est là, comment dire, non pas comme un sédiment qui se situerait en dessous des événements qui feraient sens, mais c'est lui-même qui fait sens. C'est la densité, la matérialité, l'épaisseur, la couleur sonore, parce que c'est ça qui est intéressant dans ces espaces de bruit de fond, c'est qu'à la fois il détermine des volumes, il détermine des espaces, il détermine des espaces sociaux, il détermine des espaces vivants, et il raconte en soi, non pas par un discours qui se situerait sur eux, une succession d'événements qui nous particuliers, remarquables, singuliers, qui nous arriveraient, mais au contraire dans leur état voilà, de non-détermination, de non-désignation, de non-sédiments finalement. Ils sont la matière sonore en soi, la matière comme on a une pâte colorée dans la peinture. Hein, on a là une épaisseur, on a une densité, on a une couleur sonore. On parle de couleur sonore, nous autres, et là on est vraiment là-dedans. Et on a... alors là, des flux qui sont assez lâches, hein, c'est les enfants ou les gens qui se déplacent dans cet espace, mais à la fin, ils commencent à les activer. Vous avez vu comment il enchaîne les chutes des tableaux et les déplacements des tableaux, et où là, on a quelque chose qui se constitue comme une rythmique. Et c'est ça qu'on aura dans Temps Travail, qui est un film construit à partir du son des images, donc il prend strictement le son qui appartient à chaque séquence d'images qu'il nous présente. C'est des séquences très courtes, c'est des plans qui font quelques secondes, des fois à peine une seconde, et ensuite il commence à matcher ces sons avec d'autres images, c'est-à-dire que on a bien les sons des images qui nous sont présentées, mais elles ne sont pas forcément placées au bon endroit. Et peu à peu, à la fin, elles persistent et les images continuent de s'alterner comme ça. Et ce sédiment persiste et devient une espèce de porteuse stable comme ça qui tient l'ensemble. Voilà ce que ce qu'on aimait chez Jacques Tati, c'était sa liberté de placer des sons sur les images et de choisir de désigner que quelques éléments de l'image et d'activer l'image par les sons hein, placés à certains endroits. Là, ce que l'on aime, bien sûr, c'est cette liberté de reprendre en main la totalité et surtout de ne pas travailler avec le synchronisme. C'est ce qui nous permet d'entendre. C'est parce qu'il n'y a pas de synchro que nous pouvons écouter. Parce qu'il n'y a pas d'effet de fusion. Et lorsqu'il y a l'effet de fusion entre le son et l'image, il y a un événement et il n'y a plus de son et d'image, il y a l'événement. D'où l'image, évidemment, tire son épingle avant le son, quoi. C'est-à-dire, elle l'emporte tout le temps. Mais le son disparaît derrière l'événement. Le synchronisme annule la distinction des composantes. Là, le fait qu'aucun élément n'est synchrone, enfin, on a juste l'eau forte hein, dans le premier film qui est synchrone, mais qu'on ne comprend pas, c'est l'ébullition de l'acide hein, sur la plaque du graveur. Mais sinon, voilà, on est rarement... C'est quelques pas aussi hein, qu'on a eu à la fin vers le lit du cinéaste, et puis cette interview à la toute fin, espèce de retour. Alors, on peut le lire de plusieurs façons, mais à la fois c'est une façon de céder au spectateur et de faire retour sur l'hommage, hein, sur la parole, sur les formes. On a là, et en même temps, une autre façon d'approcher la sensibilité, enfin, sur la proximité, l'intimité, etc. Donc, Ken a une très grande confiance dans le son. C'est ça qui est remarquable, finalement, pour ça. Ça nous intéresse, nous, dans ce cycle, de vous montrer des cinéastes qui ont confiance, c'est-à-dire qui prennent des risques, qui croient, qui pensent qu'avec le son, ils peuvent tenir les images et plus que ça, les nourrir et plus que ça, nous faire vivre quelque chose qui passe par un autre régime que celui de la parole, du discours. Ce sont trois portraits de la même personne et ce sont trois approches différentes du portrait. Ça, c'est très, très intéressant de voir comment on se pose toujours la question. Enfin, moi, avec les élèves, quand on leur demande de faire un portrait, par où ils passent. Et là, on a, voilà, manifestement trois portraits qui n'ont rien à voir et qui nous disent pourtant tous la même chose. Et le chaos est toujours exclu. Hein. Nous, les bruits de fond, tout ça, on essaye de gommer tout le temps. Tout le monde essaye de gommer. Pour le disque, c'est pareil. On essaye d'exclure le bruit de fond. Or, pourtant, c'est la porteuse. C'est ce à partir de quoi... En fait, c'est la réponse, le bruit de fond. Quand les musiciens... ça, c'est un exemple qui parle beaucoup... Les musiciens qui jouent des instruments bruyants, les trompettistes, les trombonistes, les saxophonistes, ils vont jouer sous les ponts. Hein, on les rencontre de temps en temps dans Paris sous les ponts. Et s'ils vont jouer dans ces lieux, c'est parce qu'il y a du retour. C'est parce que le son leur revient. Et c'est ce bruit de fond, c'est ce chaos, c'est cette queue de son qui leur permet de continuer de jouer. C'est parce que le son fait retour, répond hein, finalement, que ce chaos répond que la parole peut exister. C'est parce qu'il y a la réponse des espaces, que les espaces sont remplis, sont mis en charge, et qu'on a accès à cette charge, que la parole peut renaître. Ça, c'est un principe moteur. Si vous êtes dans une chambre qu'on appelle anéchoïque, c'est-à-dire sans écho, hein, c'est les chambres sourdes, les chambres de mesure, on ne peut plus produire. Si vous mettez un musicien pour l'enregistrer, parce que quand on fait des mesures, des analyses d'instruments pour travailler sur le timbre, on les place dans ces lieux-là, ils ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent pas jouer parce qu'ils n'ont pas de retour. C'est dire à quel point ce retour qui est à peine perceptible d'habitude, enfin quand on joue dans un espace, on n'en tient pas compte. On pense que ce n'est que l'élément émetteur qui est important. Or, pas du tout. C'est bien évidemment cette dualité entre l'émission et le retour. Et là, il nous fait apparaître le retour. Le retour de quoi ? Ben de tout ce qui a eu lieu, tout ce qui a disparu, tout ce qui est en train de s'effacer. Voilà, cet effacement permanent. Mais c'est un lieu moteur. C'est la caverne, hein, c'est la caverne. C'est-à-dire, si ces lieux, enfin, si la caverne ou l'église sont des lieux, les lieux que l'on construit pour approcher ce qui dépasse l'humain, c'est-à-dire l'endroit où la parole se prolonge. Hein, c'est ça l'idée, c'est que dans ces lieux, dans la caverne ou dans l'église, bah, la voix continue d'exister, c'est-à-dire qu'elle vit après son arrêt. La réverbération est le lieu, hein, voilà, c'est une autre manifestation du chaos, c'est le lieu où l'espace permet au corps de continuer d'exister hors de lui. Ça, c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de voir à quel point cet élément est déterminant dans la mise en forme sonore. Par exemple, dans l'histoire de l'enregistrement, si on écoute les enregistrements qui ont été faits dans les années 50, la réverbération était inexistante. Si on écoute les enregistrements qui étaient faits dans les années 30, 40 de musique classique, la réverbération n'existait peu. Elle était contingente du lieu où les gens enregistraient, mais le plus souvent dans les studios, et il y avait très peu de temps de réverbération. Les taux étaient très bas. Et maintenant, et bien évidemment, au contraire, on est dans des flux de réverbération très très importants, au contraire. C'est par cela qu'on fait tenir la musique dans un espace qui, évidemment, la prolonge et l'emmène bien au-delà, enfin, de ce qu'elle est capable de faire. Il y a eu une inflation de réverbération dans les années 80. Si vous écoutez les enregistrements de Boulez et du domaine musical en 50, c'est sec, ça tombe, la musique tombe. Et si vous écoutez l'intercontemporain maintenant sur les mêmes œuvres, la réverb est très très longue et elle tient complètement l'œuvre. Donc il y a là quelque chose qui est finalement un principe de vie dans ce chaos, dans ce bruit de fond. Hein, toute le Veda, les religions de l'Inde, renvoient au vacarme, au bruit de fond, au vacarme annonciateur. L'homme sort de... la terre sort du chaos, mais du chaos sonore. Hein, Sabbapata Brahmani créa la terre de son souffle et l'homme d'un vent de son fondement. d'un père. Donc c'est dire à quel point on est dans le chaos à l'origine. Et pourtant, toute la question de la qualité, ce qui est appelé la qualité dans le son, c'est justement l'évacuation du bruit de fond. On a pendant de nombreuses années mis au point, travaillé à mettre au point les réducteurs de bruit, puis le numérique, etc., pour pas qu'il y ait d'effet de souffle, pas d'effet de coquille, pas d'effet de résiduel, etc. Pour peu à peu se rendre compte, quand on faisait l'analyse, par exemple, du timbre du violon, qu'il y avait un pourcentage au-delà de 50% de bruit dans le son de l'instrument. Alors, il y a une mise au relatif du visuel par le sonore, oui. J'ai fait un travail avec les étudiants des Beaux-Arts pendant un certain nombre d'années sur ça, sur la question de la plasticité du son. En quoi, finalement, quand on change un son synchrone avec une image, quand on l'échange pour un autre son, la matérialité visuelle se transforme. Il y a là le poids, par exemple, peut être un élément très important. Hein, quand on voit un élément tomber et que le son du choc n'est pas de nature à ce que l'on attendait, d'un seul coup, la matière de l'objet, tout ce que l'œil nous donnait et comme certitude de cet élément s'écroule, et il y a là quelque chose qui se produit qui est de l'ordre d'une déréalisation, de l'ordre d'une improbabilité, mais qui existe dans le temps et qui existe dans une progression. Et c'est ça qui est très intéressant. Lorsqu'on commence à faire travailler l'image par le son, quand on commence à ne pas donner à l'image ce qu'elle est supposée nous faire entendre. Et seul le cinéma nous permet de faire ça. Le spectacle vivant ne peut pas le faire. Seul le cinéma est le lieu où l'on peut ancrer dans l'image une matérialité sonore qui ne s'adapte pas à ce que l'on attend et qui l'emmène ailleurs. Alors, bien sûr, le bruitage cinéma, c'est ça fondamentalement. C'est-à-dire, c'est faire croire par des éléments sonores qui sont appauvris par rapport à l'élément réel, à la vérité de l'existence de ces objets, de ces éléments. Mais la force, justement, du bruitage, c'est d'arriver à une espèce d'épure de la matérialité du visible, c'est-à-dire à un allègement de cette matière de l'image. Et on peut aller bien sûr bien au-delà, et on peut travailler le son des images, y compris avec des bruiteurs, mais pas seulement avec des bruiteurs. Je repense à Grand Rieux, parce que je viens de revoir un film précédent, et il travaille justement la sensation, hein, il travaille dans des grandes proximités, dans des grandes puissances sonores, tout est reconstruit, mais tout est reconstruit avec une immense force, une immense violence qu'il vient raccorder sur ces images. Il tourne avec la violence, par exemple, il a fait un film qu'il a tourné en Bulgarie, et pendant le tournage des plans, il parle aux acteurs, donc c'est impossible de faire du son direct, il hurle, il met de la musique à fond pour que les acteurs, qui ne sont pas des acteurs d'ailleurs, les figurants, bouge et se déplace sous la pression du son, hein, il tourne même en caméra thermique pour pouvoir faire des images dans le noir, pour les mettre justement dans des conditions de jeu qui ne soient pas celles qui soient en prise avec le visible. Et à partir de ces images, il les recharge avec des sons où là, il met un tel régime d'énergie, de puissance, de proximité, que les images n'auraient jamais eu si on avait tourné
en direct. Par exemple, dans le lac là, qui va sortir, les arbres, par exemple, qui sont abattus, sont enregistrés avec des micro-contacts dans le bois. Et ce n'est pas enregistré pendant le plan, mais c'est après le plan. C'est-à-dire, il refait un plan pour le son, et strictement pour le son. Et ensuite, il va recaler les éléments sur les images pour que ce qui est donné soit donné avec une possibilité de prise que le tournage ne permet pas normalement. C'est-à-dire que si on veut être proche, on est en micro-cravate, et si on veut être au cadre, on est avec des perches qui sont lointaines. Je vais parler des plans d'un plan général. Or là, il peut, s'il refait pour le son, avoir des positions de micro qui sont relativement proches, mais qui ne sont pas des positions de micro-cravate, hein, et qui vont nous donner une puissance du sonore, qui vont activer les images de manière beaucoup plus importante que si on avait du son direct. Donc c'est un recalage, c'est un réajustement, c'est un choix de quelle densité, quelle épaisseur, quel timbre, puisque on sait que plus on s'approche de la matérialité, de l'objet qui sonne, plus on va lui faire sortir une densité des timbres importante et riche. Hein, on sait qu'en s'éloignant, eh bien, il y a tout un tas de fréquences qui disparaissent. Donc plus on est, plus on s'approche, et plus les sons sont habités, sont denses, sont épais, sont nourrissants. Donc c'est comme ça qu'il travaille, pour nous donner justement un cinéma qui nous prend à l'endroit de la sensation. Et ce n'est pas du tout un cinéma de dialogue, il s'en fout complètement. D'ailleurs, ça parle dans plusieurs langues, il ne traduit pas, il y a à peine des sous-titres, des fois il y a un sous-titre ou deux, mais il n'y a rien, quoi. Tout est dans l'intensité des relations. Et pourtant, il y a du jeu. Il y a du jeu. Le film précédent était sur la prostitution et sur le commerce des corps. Et c'est d'une violence inouïe. Mais par le son, c'est d'une violence inouïe. Alors, il tourne très proche. Il tourne très près des corps, mais il refait le son. Et alors c'est aussi cet ajustement qui est un non-synchronisme, un synchronisme approximatif, un synchronisme recalé, un synchronisme reconstruit, reconstitué, qui fait que finalement il y a peu de choses qui sont réellement... on y croit parce que la succession des ajustements à peu près... nous pousse à croire que c'est synchrone. Et donc, il y a un effet de fusion qui se fait et on oublie le son. Il nourrit l'image et il active l'image. Mais en fait, il est tout le temps faux. Il est tout le temps faux. Si on regarde chaque plan et si on considère le son de chaque plan, ça n'est pas le son réel du plan. Il est autour, enfin, ça bourdonne autour du point de synchro. Il y a un brouillage, mais un brouillage qui est dans une énergie tenue et construite et calée, en fait, hein, recalée. C'est sûr qu'on a toujours tendance à croire que c'est du direct et que le son au cinéma le plus vrai, le plus fort serait le son direct. Il y a toute une école, d'ailleurs, qui engage à cette croyance. Évidemment, enfin, moi, je suis d'accord avec Philippe Garrel pour faire une seule prise et pour avoir non pas la vérité, mais la maladresse. Non pas la vérité, mais l'incertitude dans le jeu. Non pas la vérité, mais en tout cas la vérité de cette fragilité-là. Voilà. Ça, c'est intéressant. L'endroit où, finalement, les acteurs ne vont pas tenir la prise totalement. L'endroit où ils vont mettre la gomme à un moment et puis à un autre moment, ils vont perdre du terrain. Et où ça sera un autre qui va reprendre le relais. Où ça sera un geste qui sera d'un seul coup juste par justement ce trouble qui arrive soudain dans le jeu. Donc finalement, le direct, il est intéressant à cet endroit, et dans le documentaire comme dans la fiction. Il est à l'endroit de, où le sensible transparaît, voilà. Où là, il nous met en contact, enfin, avec les corps à l'endroit du plus fin. Enfin, nous sommes capables d'entendre, même sans la distinguer, sans la reconnaître et sans en avoir conscience, nous sommes à même de distinguer le presque rien qui est vraiment l'endroit qui nous touche le plus, qui est justement à cet endroit où on n'est pas sûr, où il y a l'hésitation, où les choses sont fragiles et frêles. C'est là finalement où le sonore travaille le mieux. C'est pas dans les gros paquets et dans l'armada du doublage et de la post-synchro où les corps finalement parlants ne sont plus engagés. Parce que faire une post-synchro, c'est désactiver l'engagement des corps. C'est en cela que la post-synchro éteint les films. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est justement peut-être ce travail que le son fait dans ce désajustement, enfin, avec l'image, dans cette approximation du recalage. Ça, c'est intéressant. Mais c'est ce que Tati fait tout le temps. On voit, je vous ai montré la dernière fois à quel point, et on pourrait, si vous regardez par exemple Les Vacances de Monsieur Hulot, c'est flagrant. Dans ce film, les trois quarts des sons ne sont pas calés. Et je repense à ce propos à un film qui travaille entre le sonore et le musical, puisque là on avait aussi entre le sonore et le musical, mais d'une autre façon, qui est le film Animalier, Le Territoire des Autres, de Vienne, etc., et Fano, où là, Fano travaille sur justement l'approximation. C'est pas l'approximation, c'est plutôt des contrepoints. C'est des contrepoints du placement des points de synchro. C'est-à-dire qu'il place les points de synchro avant l'événement visuel. Il met les points de synchronisme à l'endroit où finalement le surgissement du son nous prépare au regard, nous prépare à saisir l'événement visuel. Et il cale ses sons en avance sur les événements. Et ça, c'est très intéressant, ce flottement. Hein, tour à tour, on revient au synchronisme, puis on se redécale. Et ce jeu fait que on va avoir une double conscience. Il va y avoir de l'écoute consciente. Voilà. Et ce que je vous disais la semaine dernière, le mois dernier, c'était la dernière séance, c'était qu'effectivement, il faut se pincer tout le temps pour avoir conscience de l'écoute, hein, pour se souvenir, pour ne pas rentrer dans la fusion cinématographique et rentrer dans l'histoire. Si on veut entendre un film, il faut soit écouter la bande-son séparément, soit sans cesse se dire « ne rentre pas dans le film, écoute ». Là, dès qu'on est hors synchronisme, on a la vision et l'ouïe. On a les deux. Et la sommation des deux, comme vous disiez si bien, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se produit, qui est l'ordre d'un troisième élément qui se joue des deux, quoi, qui produit quelque chose d'autre. Et là, chez Koeken, c'est manifeste, enfin, c'est d'une puissance incroyable. Et ce qui fait que finalement ce film, on peut le revoir une infinité de fois, il est toujours aussi actif. On ne se lasse jamais, on ne l'a jamais intégré. Parce que nous travaillons à la lecture, à reconstruire, à refabriquer des liens. Nous ne cessons d'organiser les liens entre le visuel et le sonore. Et je crois que, on fera une séance sur cette question du synchronisme parce que c'est vraiment une question centrale. Pour moi, le cinéma, en croyant fondamentalement, enfin, une espèce de comme ça, ontologie du synchronisme. Le synchronisme serait constitutif fondamentalement du cinéma. Non, c'est quelque chose qui a été construit et qu'on a mis 30 ans à construire et maintenant qu'on essaye de tenir à toute force, croyant que c'est la condition absolue pour faire du cinéma. C'est une erreur fondamentale. Il faut se rire du synchronisme. Et je crois que c'est les cinéastes qui se rient le plus du synchronisme, qui nous font passer le plus fortement leurs images et qui font que le spectateur accroche les sons aux images. C'est le spectateur qui va faire les liens. Et la question fondamentale, évidemment, est que plus on participe au film, plus on construit du lien entre le sonore et le visuel, plus on nourrit le film, plus on le fabrique nous-mêmes. Et plus c'est notre film. Or, c'est ça qui est intéressant. Mais il y a des cinéastes qui nous font croire qu'ils font du cinéma synchrone et qui font du cinéma non synchrone. Mais ceux-là sont les plus habiles.
Cet épisode a été préparé par Catherine Blangonnet-Auer. Réalisation Michel Bourzex et Catherine Blangonnet-Auer. Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.